Kiosque Magazine.
Avec Isabelle Falardeau, en remplacement de Michel Audet. Michel, oui, c'est ça. J'ai eu un blanc tout à coup. Je m'excuse, Michel, si vous m'entendez quelque part, si tu m'entends. Michel qui est en train de se faire bronzer quelque part sur la planète, j'imagine. Aujourd'hui, ben, c'est ça. Les vacances, à part celles de Michel, sont presque terminées. Les enfants vont bientôt réencombrer les autobus et ce sera plus désagréable de se rendre au travail le matin. Mais nous, on continue de se promener. Entre autres, on va aller au Portugal et aux États-Unis, plus précisément au Texas. On va aussi faire un peu d'exploration scientifique à la recherche de la tomate perdue. Et on va visiter Anticosti, mais plus d'un point de vue de l'erreur écologique que l'expérience d'un Français riche et amateur de chasse a créé sur cette île.
Je marche fragile comme une jonquille, poussée au dos par un grand vent. Et toutes les pensées qui m'habillent me donnent un air de cerf-volant. Je prends des sentiers peu faciles qui vont traînant sur les collines, où des tas d'arbres un peu graciles me tendent leurs bras et leurs racines. Je passe tranquille dans des forêts, j'arrête un soir sous une cascade pour y siffler un vieux menuet avec des oiseaux de parade. Je trouve la mer au bout du ciel, dans l'eau le plancton étincelle, et dans le noir toutes les étoiles gonflent mon âme comme une voile. Je voyage, je voyage, et dans ma tête et dans mes reins l'idée de toi fait son chemin. L'idée de toi. Je croise sans fin des cabarets, des inks mouillés et des gens ivres, dans des pays où le ciel livre des tonnes d'envie et de regrets. Je plonge mon cœur dans des regards où flottent ennui et désespoir. Puis je repars pour voir ailleurs si le monde enfui n'est pas meilleur.
Annie Poulain, je voyage et nous voyageons également. C'est le Géo, un magazine français de juillet 2014, qui offrait un dossier complet sur le Portugal. Et moi, c'est l'article sur la côte Vicentine qui a attiré mon attention parce que j'aime beaucoup, beaucoup me promener quand je suis en voyage. Et on nous parle d'un nouveau sentier de randonnée qui, qui a été aménagé à l'extrémité du vieux continent, un endroit longtemps connu de rares initiés. Et je vous avoue, je vous jure, je vous promets qu'un jour je vais aller à cet endroit. J'ai vraiment été séduite par cet article-là. J'espère que ce sera votre cas aussi. Elle court sur 350 km de landes et de futaies, flirte avec l'abîme sur des apics insensés, relie des hameaux blanchis à la chaux à de minuscules ports de pêche. La Rota Vicentina a été balisée il y a 3 ans par des bénévoles amoureux de l'Alentejo, région la moins peuplée du Portugal. On parcourt ce sentier de randonnée selon deux itinéraires. Le rouge, historique et terrien, qui musarde dans un surprenant arrière-pays rural. Et le vert, ou chemin des pêcheurs, qui suit les 110 km de la dernière côte sauvage d'Europe jusqu'en Algarve. De Santiago do Cacém au Cap Saint-Vincent, du nord au sud, 5 étapes inoubliables attendent le visiteur. Au royaume du chêne liège. À Monte do Giestal, près d'une ferme, se trouve un chêne liège de plus de 500 ans. Son gland a germé alors que Vasco da Gama, natif de la ville voisine de Sines, était encore un gamin. Aujourd'hui, ses branches tordues offrent une ombre légère. Jamais on n'exploitera son écorce, ce serait comme toucher au corps d'un saint, prévient Elise Hatton, 32 ans. Hier encore, cette guide touristique était chargée de communication à Lisbonne, mais suite à la crise de 2008, elle s'est établie ici, dans l'Alentejo, avec mari et enfant. « Tout est à inventer », dit-elle. « Les jeunes sont partis et les anciens nous bénissent de venir revigorer leur territoire. » Le chêne liège a bien failli disparaître à la fin du 20e siècle, attaqué par un champignon que les roues des tracteurs répandaient en sarclant les sous-bois. À présent, l'arbre vaut de l'or. De son écorce, on tire des bouchons, mais aussi des isolants acoustiques et un cuir végétal dont on fait des portefeuilles, des sacs, des tapis, voire des gabardines qui font fureur dans les magasins éco-responsables de Lisbonne. Sous le couvert des forêts paissent désormais des troupeaux. On récolte aussi du miel, des herbes médicinales et surtout les fruits de l'arbousier, qui donne l'eau de vie nationale, le Mendronio, à la saveur fruitée. Pour Viera Natividad, sylviculteur, le chêne liège est généreux et peu exigeant. L'arbre a enrichi les latifundiaires. Leur palais d'Azulejos, un peu d'Ecati, forme l'écrin de Santiago do Cacém, chef-lieu de ce début de parcours. Et il continue de faire la fortune d'Amorim, entreprise familiale et leader mondial du marché depuis 1870. Les falaises aux cigognes. L'Alentejo est une gigantesque boîte à fragrances où dominent les fluves des cistes. Les parfumeurs raffolent de ces arbustes au feuillage huileux, dont on extrait le labdanum, une note de fond essentielle. À grandes ou à petites fleurs, la plante recouvre les espaces libres de cette région peuplée de moins d'une dizaine d'habitants au kilomètre carré. Comme le chêne liège, c'est une pyrophyte. Elle ne craint pas les incendies et, au contraire, elle en a besoin pour se régénérer. Mais elle n'est pas le seul intérêt de l'Alentejo. Pour nous, amoureux des oiseaux, ce coin situé à la confluence des grandes migrations est un paradis, explique Rudolfo Müller. Ce quinquagénaire suisse s'est établi ici depuis 30 ans pour animer des treks ornithologiques. Jumelles en bandoulière, il dénombre les pipites, les bruants broyés, ou les aigles de Bonelli, en voie d'extinction partout ailleurs, mais dont un jeune mâle, poitrail blanc et dos fauve, guette au sommet d'un poteau. À l'approche de la côte, les cigognes deviennent plus nombreuses. Elles opèrent d'éblouissants vols planés sur le ciel bleu avant de retourner en bord de falaise. Entre le minuscule port de Lapa das Pombas et le cap Sardao, elles ont édifié sur les pitons des dizaines de nids, dont certaines font 3 mètres de haut. Génération après génération, elles y reviennent, mais personne ne s'explique pourquoi les cigognes aiment tant l'océan, remarque Rudolfo. Un vrai mystère. Un soufi au bout du monde. Al-Ghesour, rien que par son nom, ce bourg rappelle la présence mort. Son château, symbole de la Reconquista portugaise, figure parmi les 5 qu'arbore le drapeau national. Dans les ruelles aux murs d'argile, le soleil joue sur les façades vertes, roses et azur, liserées de blanc. Cette petite cité a été construite pour ne recevoir que les rayons du matin et offrir l'ombre de la colline l'après-midi venu, tournant aussi le dos aux tempêtes de l'ouest. Un calme inouï émane de cette terre où, au XIIe siècle, résidait Abou al-Qassim, Ben Alhosern ibn Kassi. Ce prince d'Algarve avait fondé sur un promontoire un couvent-forteresse où il s'adonnait à la lecture et à la méditation. Dans une pièce noire, il s'asseyait face à une meurtrière orientée plein ouest, avec comme unique vision l'infini des eaux et du ciel. L'édifice n'est plus que ruine, mais chaque soir, les promeneurs silencieux viennent y contempler le lent plongeon du soleil dans l'immensité océane. Des pousse-pieds dans le plat. Selon la météo, la côte vicentine peut sembler méditerranéenne à 11 heures et bretonne à 16. Sa géologie est tout aussi capricieuse. Les amas bleus et noirs des schistes, les canyons ocre de sable fossilisé, ont été torturés par la houle et le rift qui courent à 10 km au large. José Figuera, un pêcheur au visage buriné, fait sa cueillette sur des figuiers nains recouvrant un apic. « Ces figues sont les plus extraordinaires que je connaisse », lance-t-il. Un réconfort, surtout après une pêche au pousse-pied. Ces étranges crustacés, dont on presse le pédoncule pour extraire une chair translucide, concentrent tout le goût de l'océan. La cuisinière du Restaurante da Praia, une terrasse perchée au-dessus de la plage d'Arifana, sait les apprêter comme personne. « Il faut bien connaître le temps et les vagues pour les ramasser », explique Rosé. « Parfois, je descends en rappel le long des parois pour les débusquer ». Le pousse-pied est l'un des nombreux trésors gustatifs des rivages vicentins, avec le sargue, sargot, une fausse dorade délicieuse avec un pesto aux pignons de pin et romarin. Le poulpe, lui, s'agrémente de patates douces, tubercules dont les épluchures font de fabuleuses chips. Le mariage de la terre et de la mer est aussi à l'origine de la bouillabaisse portugaise, la cataplana, pommes de terre, poissons de roche, safran, poivrons et oignons. Sans omettre le porc noir de l'Alentejo, nourri au gland et cuisiné avec des coques. « On le tue toujours dans nos campagnes, même si Bruxelles l'interdit », ricane José. « Mais ici, l'Europe, plus on s'en éloigne et mieux on se porte. » Vers la Terra Incognita, tout au bout du menton du continent, voici le Cap Saint-Vincent où se déchaînent les vents. Entre les phares, le phare et la Ponta dos Altos, deux criques au calme relatif forment un port naturel où s'abritaient les caravelles avant d'affronter le noir océan, nom médiéval de l'Atlantique. Elles étaient gouvernées par des gars du coin comme ce Gilles Eanes, natif de Lagos en Algarve, qui en août 1434 franchit le premier le redoutable Cabo Borrador, actuel Cap Boujdour au Sahara occidental, ouvrant aux Portugais la route de l'Afrique. Car la côte vicentine n'est pas seulement le berceau de Vasco de Gama qui, enfant, courait sous ses chaînes lièges. C'est depuis cette terre farouche que levèrent l'ancre tous les découvreurs des Nouveaux Mondes, de nouveaux mondes comme João González Zarco, qui atteignit l'archipel de Madère en 1418. En seulement un siècle, ils ouvrirent à leur royaume les Açores, le Cap de Bonne-Espérance et le Brésil. Le grand destin du Portugal a bel et bien commencé ici.
She left without leaving a number. She said she needed to clear her mind. He figured she'd gone back to Austin, 'cause she talked about it all the time. It was almost a year before she called him up. Three rings and an answering machine is what she got. If you're calling about the car, I sold it. If this is Tuesday night, I'm bowling. If you got something to sell, you're wasting your time. I'm not buying. If it's anybody else, wait for the tone. You know what to do. And P.S., if this is Austin, I still love you. The telephone fell to the counter. She heard, but she couldn't believe. What kind of man would hang on that long? What kind of love that must be? She waited 3 days, and then she tried again. She didn't know what she'd say, but she heard three rings and then. If it's Friday night, I'm at the ball game.
this is Austin. I still love you. Well, this time she left her number, but not another word. Then she waited by the phone on Sunday evening, and this is what he heard. If you're calling about my heart, it's still yours. I should have listened to it a little more, then it wouldn't have taken me so long to know where I belong. And by the way, boy, this is no machine you're talking to. Can't you tell this is Austin? Still love you. I still love you.
Blake Shelton avec Austin. Austin, I still love you. Et on connaît aussi Houston, we have a problem. Mais c'est de Fort Worth que je vais d'abord vous parler. C'est encore dans le Géo de juillet. Le titre de l'article complet, Le Texas inattendu, c'est un article de Pierre Sorgue. Il nous parle de vraiment plusieurs villes du Texas, mais j'en ai choisi deux dont je vais vous parler plus particulièrement. Évidemment, si l'on atterrit à Houston, Texas, on peut avoir des doutes. L'aéroport est baptisé George Bush Intercontinental, du nom du père, mais comme un hommage aussi au fils. Et pour peu qu'un douanier zélé confisque puis découpe vos cigares, achetés en France mais fabriqués à Cuba toujours sous embargo, alors vous prend l'envie de fuir cet état de cow-boy sectaire et de sauter dans le premier avion pour la Nouvelle-Orléans. Là-bas, au moins, l'aéroport s'appelle Louis Armstrong. Mais il faut se méfier des premières impressions. Et il suffit de quelques jours sur les terres du Texas, plus grand que la France, 696 241 km², pour s'apercevoir qu'il est bien plus accueillant et intéressant que les clichés ne le laissent supposer. Ce n'est pas qu'un paradis de rednecks, républicains et champions de la peine de mort. La vie culturelle y va bien au-delà des rodéos et des balles country. Riche du pétrole et du high-tech, quatre grandes villes offrent un patrimoine artistique d'une qualité insoupçonnée. Fort Worth, donc, le charme discret d'une cité de mécènes. C'est ici qu'a lieu le premier choc. On découvre d'abord un centre-ville flambant neuf, mais dont l'architecture néo-victorienne prend bien soin d'ignorer toute modernité. Derrière le slogan préféré des 760 000 habitants, « Where the West Begins », là où l'Ouest commence, Fort Worth, à une cinquantaine de kilomètres de Dallas, cultive sa fierté d'ancienne ville frontière, étape des troupeaux sur la piste du Kansas et villégiature de Butch Cassidy et du Sundance Kid, les pilleurs de banques. Chaque jour, le quartier des Stockyards rejoue la conduite du bétail avec défilé de vaches à longues cornes, cow-boys à cheval et, pour le soir, le plus grand honky-tonk du pays. D'où le choc lorsque, en parcourant le Cultural District, on entre dans le Kimball Art Museum pour se trouver face à ce que la peinture occidentale a produit de plus raffiné. Michel-Ange, le Caravage, Rembrandt, Velázquez, Monet, Matisse, Miro... 350 pièces seulement, mais autant de chefs-d'œuvre déterminants dans l'histoire de la peinture. Avec en guise d'écrin, le musée, dessiné par Louis Kahn à la fin des années 1970, et ses galeries au plafond voûté, dont la lumière naturelle coule sur les toiles. À ce très bel exemple d'architecture contemporaine répond, depuis fin 2013, le bâtiment élégant imaginé par Renzo Piano pour les collections d'antiquités, d'art asiatique et précolombien. Au gré des salles de béton clair et de verre, Eric M. Lee, le directeur, vante cette architecture inspirée et son sens de l'intimité. Avec sa mâchoire carrée et ses épaules trop larges pour son costume, l'homme semble plus taillé pour le sport que pour le milieu de l'art. Pourtant, à 48 ans, il a acquis une belle réputation pour avoir fait le pari d'acheter 6,5 millions de dollars, ce que les expertises ont confirmé être le premier tableau de Michel-Ange. Le tourment de Saint-Antoine. Puis, pour avoir raflé un poussin, l'ordination, 24,3 millions, à la barbe de grandes institutions. Si Eric M. Lee évoque ces sommes faramineuses, c'est en toute modestie, Pour souligner les capacités d'engagement de la Kimball Art Foundation, 91,8 millions de dollars en 2011, grâce aux revenus du pétrole. Car Texas oblige, ce musée est une affaire privée, l'histoire d'un autodidacte qui combina à merveille mercantilisme et altruisme. Kay Kimball avait 13 ans au début du 20e siècle lorsqu'il quitta l'école pour travailler dans la meunerie de son père avant de faire fortune dans le grain, l'épicerie et le pétrole. Tombé amoureux des arts plastiques, il acheta des peintures sur les conseils d'un marchand new-yorkais, puis créa la fondation que préside toujours sa nièce, Kay Forsten. Depuis, l'objectif demeure « Chaque acquisition doit être un chef-d'œuvre capable de côtoyer les autres », résume Eric Emley, diplômé de Yale, mais tout à fait à l'aise parmi ses fans de rodéo qui peuvent être particulièrement éclairés en matière d'art. Visiblement, les cow-boys éclairés n'ont pas manqué à Fort Worth. À quelques mètres du Kimball Museum, 5 pavillons aux toits plats et aux murs de verre, soutenus par de fines colonnes, flottent sur un bassin. L'architecte Tadao Ando a mis toute sa délicatesse japonaise dans ce bâtiment qui abrite depuis 2002 le Modern Art Museum. À l'intérieur, la collection, débutée en 1882 par quelques dames que l'élevage ne passionnait pas, est l'une des plus importantes du pays et ne cesse de s'enrichir d'œuvres qui sont autant d'émotions. Toiles de Rothko, installations vidéo de Bill Viola, qui a en ce moment les honneurs du Grand Palais à Paris, sculpture hyper réaliste de Ron Mueck, une miniature de vieille dame au regard triste et à la peau fripée. Un peu plus loin, un bâtiment de granit signé Philip Johnson se dresse sur son tertre de verdure. Le Ammon Carter Museum of American Art raconte une autre histoire texane, celle d'Ammon G. Carter, né en 1879, d'abord voyageur de commerce, puis roi des médias de Fort Worth. Il aimait les peintures « western » de Charles M. Russell et de Remington, les deux maîtres du genre. Il était issu d'un milieu modeste et voulut offrir à sa ville un musée dont l'entrée serait gratuite, mais il mourut en 1955 et c'est sa fille Ruth qui exauça son souhait en 1961, raconte Margie Conrads, la conservatrice, pendant que l'on savoure les peintures puissantes de Remington, les nageurs de Thomas Eakins, un classique américain, et les toiles de Georgia O'Keeffe, qui font vibrer les paysages, les fleurs et maisons d'adobe du Nouveau-Mexique, épurées jusqu'à l'abstraction. C'est à ce musée que l'on doit aussi la commande passée en 1978 au photographe Richard Avedon pour des portraits monumentaux d'Américains ordinaires qui constitueront l'une des expositions photographiques les plus marquantes de tous les temps, In the American West. Autant dire qu'en quittant le Cultural District, on se sent un peu comme Jackie Kennedy qui accompagnait JFK à Fort Worth le 22 novembre 1963, veille de l'attentat fatal de Dallas. Son président de mari lui avait annoncé une province peuplée de riches républicains portant visons et bracelets de diamants à qui elle montrerait ce qu'est réellement le bon goût. Mais voilà que leur suite de l'Hôtel Texas, à l'entrée de Main Street, était décorée de chefs-d'œuvre assemblés par les familles à l'origine des trois musées. Ce fut la réussite de Fort Worth qui montra aux autres villes du Texas qu'elles pouvaient devenir des destinations culturelles. De Fort Worth, on passe maintenant à Houston. Métissée et bohème, la ville sort du placard. Voilà le genre de réflexion qui fait sourire à Houston. Où l'on vous rappelle très vite que le chanteur Townes Van Zandt, vénéré à Austin, est natif d'ici. Tout comme Beyoncé ou les rappeurs qui ont fait la célébrité du Houston hip-hop. Et où l'on affirme que le nouveau secret le mieux gardé des États-Unis est le pouvoir de séduction de cette ville qui devrait être capitale du Texas. Certes, il faut du temps pour prendre la mesure de la quatrième plus grande agglomération des États-Unis, 6 millions d'habitants dans le Grand Houston. Il faut passer outre l'incroyable écheveau de voies rapides, dans lequel même le GPS se perd, accepter l'étendue de cet archipel urbain que l'absence de planification rend anarchique. Mais le vertige passé, C'est un plaisir de découvrir des quartiers comme Montrose, qui gardent encore un peu de son esprit bohème, ou les Heights, qui ont su préserver leur belle demeure sous la verdure. Plonger dans cette ville-monde permet aussi d'ébranler les clichés les plus tenaces. Houston, symbole de Texans réactionnaires à l'abri de leur pick-up énergivore? En 2009, Houston fut la première grande ville des États-Unis à élire une maire lesbienne et démocrate, la très populaire Annice Parker, toujours à la tête d'une municipalité qui fait de gros efforts pour développer le transport sur rail, créer des parcs, des pistes cyclables autour des bayous, rapprocher lieux de travail et de résidence. Houston, reflet d'un Texas trop blanc et xénophobe? Les Anglos sont désormais minoritaires, moins de 40% dans l'agglomération. L'un des plus vastes Chinatowns du pays s'étire à l'ouest. Des milliers de réfugiés chassés de la Nouvelle-Orléans par l'ouragan Katrina sont venus grossir la population afro-américaine. Quant aux Latinos, l'une des plus belles success stories s'écrit à Montrose, dans le meilleur restaurant mexicain de la ville. Hugo Ortega, le chef et propriétaire, aime raconter comment, garçon, né à Mexico en 1965, il a pris les recettes de sa grand-mère avant de faire le périlleux voyage clandestin vers l'Eldorado, d'arriver à Houston dans le coffre d'une voiture, de laver la vaisselle dans un restaurant dont la patronne lui donna sa chance en cuisine et lui paya des cours du soir. Depuis, il l'a épousée. Quand on lui parle des Texans racistes, Hugo Ortega se fend d'un large sourire. « Regardez ce que je suis devenu grâce à eux. » Certes, Houston est terriblement inégalitaire, économiquement et socialement. Mais, précise Mimi Swartz, l'une des plumes du magazine Texas Monthly, elle est bien plus diversifiée qu'on ne le croit. Son port est l'un des plus actifs du pays, les compagnies pétrolières internationales sont là. Houston est tout sauf provincial. Ici, le pétrole fait presque tout. Il nourrit une économie qui a ignoré la récession, avec 3,8% d'emplois en plus en 2012. Il se cache aussi derrière le foisonnement artistique. Dans le district des arts, où l'opéra, les théâtres et les salles de concert offrent le plus grand nombre de sièges après Broadway. Au Musée des Beaux-Arts, l'un des plus richement dotés du pays, la foule se presse pour admirer les classiques européens avant de se laisser hypnotiser par les installations lumineuses de James Turrell. À la Ménil Collection, entièrement gratuite dans son musée signé Renzo Piano, Dominique de Ménil, de la famille Schlumberger, et son mari John ont légué 10 000 peintures, aquarelles, sculptures et objets d'art à la communauté. Ils furent aussi les commanditaires de la Rothko Chapel, petit bâtiment blotti sous les arbres et ouvert à tous. À l'intérieur, les immenses toiles monochromes de Mark Rothko sont tendues sur chacune des faces de l'octogone. Au centre, quelques bancs pour se reposer ou méditer. À des années-lumière d'un Texas bigot et arriéré. C'est cette foi en l'art qui guide Rick Lowe depuis 1993 dans le Third Ward, quartier afro-américain devenu délabré et malfamé. D'abord, 22 Shotgun House, petite maison de bois typique du Sud, puis 40 propriétés ont été rénovées pour héberger des créateurs, mais aussi offrir des logements à des mères célibataires. Autour, un projet communautaire nourrit des programmes pour les enfants et les résidents. Crée des liens de voisinage. Les étudiants en architecture de la très huppée Rice University voisine ont planché sur l'aménagement de maisons bon marché. Peut-être le projet d'art public le plus impressionnant et visionnaire du pays, a tranché le New York Times en 2006. À quelques rues de là, James Haritas croit aussi que l'art contemporain peut dire quelque chose. Fatigué de ces œuvres conceptuelles qui ne sont qu'une affaire de mode, ce vieux monsieur a fondé son Station Museum of Contemporary Art pour accueillir la diversité de Houston, mais aussi des peintres, graffeurs et plasticiens du monde entier, dont il apprécie le talent et la radicalité du propos. Il faut oser organiser ici une exposition enragée contre les nuisances du pétrole, ou en pleine guerre d'Irak, en 2003, accueillir 23 artistes palestiniens. Les types du FBI étaient à la porte, se souvient James Haritas. On a voulu faire fermer l'exposition, mais les habitants m'ont soutenu au nom de la liberté d'expression. Et je n'ai jamais reçu une seule menace. Puis, comme si ceci expliquait cela, il ajoute « This is Texas ». Pas forcément celui que l'on attend en débarquant à l'aéroport George Bush intercontinental.
Pour approfondir un texte ou l'écouter intégralement, nous vous invitons à contacter les organismes Audiothèque et la bibliothèque numérique DNCA. Pour plus d'informations ou pour trouver les coordonnées, visitez canalm.ca.
Martini avec Hang On Little Tomato. Et justement, on s'en va à la recherche de la tomate perdue. C'est le titre de l'article de Simon Coutu dans le Québec Science ou Septembre. Grosse, ferme et rutilante, Solanum lycopersicum nous fait de l'œil au supermarché. Vous l'achetez, mais une fois en bouche, déception. La pomme d'amour ne goûte plus comme avant. Patientez un peu, la phytobiologie pourrait bien lui redonner sa saveur authentique. Chez les Jardins du Chef, cultiver la tomate est un art. Depuis une vingtaine d'années, Pierre-André Desgnaux teste des centaines de variétés anciennes sur sa ferme biologique. Qu'importe si ses fruits sont bruns, jaunes, mauves, potelés ou fendus, le plaisir des papilles est la priorité du producteur qui fournit certaines des meilleures tables au Québec. Mais pour obtenir des tomates savoureuses, le maraîcher de Blainville doit nécessairement sacrifier le rendement. Du moins, à ce titre, il n'arrive pas à la cheville des géants de l'industrie. Travailler la tomate est pour moi un passe-temps, dit ce diplômé en psychologie qui a tout plaqué pour un retour à la terre. C'est beaucoup d'ouvrages et ce n'est pas très payant. Ça représente 1% de ma production maraîchère. Mais il n'y a pas de demande pour les variétés plus goûteuses. Chercheur au département de phytologie de l'Université Laval, Charles Goulet explique que, en effet, le choix des variétés de tomates se fonde principalement aujourd'hui sur le rendement, la résistance aux maladies et aux insectes, l'apparence du fruit et sa conservation. À partir des années 1950, la sélection est devenue plus industrielle, raconte Mathilde Cosse, directrice de l'unité génétique et amélioration des fruits et légumes à l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, en France. Elle a été réalisée dans des laboratoires de recherche et par des compagnies privées qui sont devenues les multinationales vendeuses de semences. Le goût, c'est le dernier maillon de la chaîne. Bien pis, sur le plan génétique, nous apprend Charles Goulet, plusieurs des caractéristiques sélectionnées ont même eu un effet négatif sur la saveur de la tomate. Les consommateurs veulent tout de même des tomates bien rouges. Or, alors qu'elles sont encore immatures sur le plan, un collet vert se dessine autour du pédoncule de nombreuses variétés de tomates anciennes. La faute au gène SIGLK2, dit une étude publiée par un groupe de chercheurs de l'Université de Californie à Davis en 2012. Ce gène est responsable de la production de chloroplastes, des structures microscopiques responsables de la photosynthèse et contenant la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Lors de la photosynthèse, ils transforment le dioxyde de carbone et l'eau en sucre et en oxygène. Dans les années 1950, des sélectionneurs ont donc procédé à des hybridations pour produire des fruits à l'apparence parfaite. C'est la mutation U pour Uniform Ripening. Elle permet d'obtenir des tomates d'un rouge uni, mais les fruits accumulent alors peu de sucre. Voilà notamment pourquoi les tomates du supermarché n'ont pas un goût aussi intense que certaines variétés anciennes au collet foncé. Le parcours génétique de la tomate moderne ne s'est pas limité à ce changement. À la fin des années 1980, les chercheurs israéliens de la société Hazera ont développé la variété Daniela, conçue pour voyager sur des centaines de kilomètres sans se transformer en purée. Elle est la première à posséder une mutation naturelle dans un gène baptisé RIN pour Ripening Inhibitor. Les fruits se conservaient trois fois plus longtemps, explique Mathilde Cosse, qui étudie la génétique du fruit depuis 15 ans. Cette variété a rapidement gagné le commerce. Elle permet de produire au Mexique pour les États-Unis et le Canada, ainsi qu'au Maroc pour l'Europe, sans trop de pertes dans le transport. Toutefois, le gène RIN a été intégré dans un patrimoine de piètre qualité. On a obtenu des fruits très fermes pour améliorer la conservation, mais la texture de la tomate n'est plus la même. Bien que la teneur en sucre et en acide n'ait pas modifiée, le consommateur perçoit une perte de saveur. Tout est intimement lié. Comme le bon vin, le goût de la tomate ne se résume pas à sa teneur en sucre et en acide ou à sa texture, mais aussi à son odeur. Alors qu'il effectuait son post-doctorat à l'Université de Floride, Charles Goulet a participé à l'analyse des quelques 400 molécules volatiles qui s'échappent des différentes variétés de tomates. Une soixantaine de ces molécules contribuent à l'arôme du fruit, dit le chercheur. Ces composés exaltent tout, depuis le gazon fraîchement coupé jusqu'à la rose, sauf la tomate. Mais notre cerveau intègre l'information recueillie par nos récepteurs olfactifs et les additionne pour recréer l'arôme typique de la tomate. De tels arômes sont d'ailleurs si complexes qu'ils font de la tomate un excellent modèle à étudier pour un botaniste. Ces molécules se retrouvent aussi dans presque tous les fruits et les fleurs, dit le chercheur en phytobiologie. Nos travaux nous permettent alors d'identifier les mêmes gènes chez d'autres espèces. Au-delà de la génétique, pour provoquer une explosion de saveur à la première bouchée, il s'agit aussi de cultiver la tomate avec attention et de la récolter à maturité. La plante bénéficie alors de ressources maximales qu'elle peut transmettre aux fruits. La tomate, c'est 95 % d'eau, rappelle Mme Cosse. Plus elle en accumule, plus elle est lourde et plus elle est rentable. Comme le producteur favorise le rendement, il y a antagonisme entre la qualité et la rentabilité. De son côté, le consommateur est coupable d'être ambigu dans sa demande. Il veut des fruits parfaits et uniformes, mais il n'est pas prêt à payer pour leur saveur. Autre problème, la tomate traverse parfois un continent entier dans un camion réfrigéré avant d'atterrir dans notre assiette. C'est long, sans compter le temps qu'elle va passer dans un étalage. Pour ne pas qu'ils soient blés à l'achat, on cueille donc les fruits lorsqu'ils sont encore verts. Or, c'est pendant la dernière phase de la maturité que les arômes se dégagent. Quand on laisse longtemps les tomates au frigo, elles perdent encore plus de goût. En passant, Mathilde Cosse conseille de garder les tomates à température ambiante 24 heures avant de les consommer. Comme on veut des tomates à l'année, ajoute-t-elle, il faut aller les chercher de plus en plus loin. L'hiver, elles sont produites en serre, alors qu'il y a beaucoup moins de lumière, un facteur déterminant du goût. Quand j'étais gamine, on n'avait des tomates qu'en été. On les trouvait tellement bonnes, d'autant qu'on n'en avait pas eu depuis l'automne précédent. Rien n'est perdu pour les nostalgiques. Si les croisements génétiques des dernières années sont en partie responsables de la perte du goût de la tomate, la science pourrait bien être à l'origine de son retour. Charles Goulet, dans les laboratoires de l'Université Laval, continue toujours de cerner un à un les gènes impliqués dans la synthèse des arômes. L'objectif ultime est de sélectionner des cultivars qui offrent à la fois de bons rendements, une résistance aux maladies et une belle apparence, tout en conservant la saveur authentique des fruits attendus par le consommateur, dit-il. Je crois qu'on va réussir. D'ici deux décennies, on aura retrouvé le goût d'antan. Avant l'arrivée de cette super tomate, les épicuriens, à la recherche d'expériences sensorielles, devront attendre la belle saison et se procurer des fruits cultivés localement avec soin, comme ceux de la ferme de Pierre-André Desgnaux. Des fruits à l'anatomie plus audacieuse, avec des noms aussi évocateurs que Mémé de Beauce, Big Beef ou Green Zebra. Mon approche n'est pas scientifique, dit le maraîcher. Irrigation, gestion de la lumière et lutte intégrée. Je ne fais pas jouer du Mozart à mes tomates. Mais au marché Jean Talon, on dit que ce sont les meilleurs.
Fanette, fanette, ta grande fenêtre qui m'emporte dans le temps. Une histoire de souvenirs de famille gardée en noir et blanc. La grande rivière au grand saumon. Les fentes et les loups bouts où je mes ancêtres dans un rêve, un conte d'enfance. Les rêves ont souvent trop d'amertume et de sang. Les miens me veulent au sein de ma petite famille d'antan. Les jeux de cache à lance aux fraises, les plages masquées en blanc, des arbres si grands.
J'en profite tout de suite pour remercier Jean-Sébastien, La Liberté aux choix musicaux, pour ne pas oublier. Jean-Sébastien qui m'accompagne aussi à la mise en onde. Alors, c'était Maya avec Anticosti. Et c'est le titre de la chronique de Jean-Pierre Rogel dans le Québec Science, 12 septembre, Anticosti, l'erreur écologique. L'île est loin d'être un paradis écologique. Elle est plutôt le lieu d'une expérimentation ratée. Il est temps de redresser la situation. C'est ainsi qu'il résume sa chronique. En 1895, le roi du chocolat, Henri Meunier, s'est acheté une île en Amérique. Quelques 8000 km² de terre vierge, un beau cadeau pour occuper ses loisirs. L'industriel français a aussitôt entrepris de la transformer en un paradis de chasse. En 2 ans, il y a déménagé 220 serres de Virginie. Pour faire bonne usure, il a aussi introduit des orignaux, des lièvres, des castors et des rats musqués. En l'absence de prédateurs, la population Dodocoileus virginianus a proliféré au point que le cervidé en question a complètement transformé la forêt d'Anticosti et, de fait, tout le milieu naturel de l'île. Il y a aujourd'hui, pour environ 250 habitants, de 150 000 à 175 000 de ces ruminants appelés chevreuils au Québec. Ils broutent intensément les plantes herbacées, les jeunes arbres, les arbustes et sont responsables, sur 100 ans, de la disparition de la moitié des sapinières. Ils ont aussi causé une importante perte de biodiversité en plantes, insectes et oiseaux. On le sait parce que la richesse initiale de ce milieu a bien été décrite tout au long du 20e siècle par des naturalistes qualifiés. Les chevreuils seraient même responsables de la disparition récente de l'ours noir, qui ne trouve plus sur l'île assez de petits fruits pour se nourrir. Anticosti est le théâtre d'une expérimentation écologique qui a mal tourné. Le résultat est une importante perte globale de biodiversité. Ce que j'affirme ici n'est pas neuf. Cette réalité est bien documentée, notamment par les travaux de la chaire de recherche en aménagement intégré des ressources biologiques forestières de l'île d'Anticosti de l'Université Laval, dirigée par le biologiste Steve Côté. Ceux qui ont la mémoire un peu plus longue se souviendront d'un remarquable article de la revue Le Naturaliste canadien en 2001. Ses auteurs, Christian Hébert et Luc Jobin, alors chercheurs au Service canadien des forêts, tiraient la sonnette d'alarme devant ce qu'on peut appeler l'erreur écologique d'Anticosti. Depuis, très peu de choses ont été faites pour redresser la situation. La création du Parc national d'Anticosti en 2002 a certes protégé 570 km² de paysages spectaculaires, des rivières, des chutes, des canyons. Mais c'est peu, moins de 1/10 de la superficie de l'île, et c'est insuffisant pour maintenir les processus naturels responsables de la biodiversité sur l'ensemble de ce territoire. Par ailleurs, une exploitation forestière plutôt intensive s'est poursuivie jusqu'à tout récemment et ne s'est arrêtée que pour des raisons économiques. Quant à la protection, la prospection pétrolière et gazière, elle se déroule pratiquement sans contrainte, comme si elle allait de soi, dans une île dont la plus grande partie est pourtant classée habitat faunique. Aujourd'hui, si la défense de la beauté naturelle d'Anticosti préoccupe les groupes environnementalistes, Nature Québec en tête, c'est parce que l'industrie pétrolière lance une série de travaux d'exploration ciblant la formation géologique Macasti qu'il faudra fracturer si l'on décide de l'exploiter. Nul doute que ce contexte présente des enjeux très importants, mais le discours écologiste serait davantage crédible s'il était plus réaliste. Peut-être serait-il temps de reconnaître qu'à la folie des grandeurs d'un capitaine d'industrie d'une époque révolue et notre indifférence face à ce territoire isolé nous ont conduit à un échec sur le plan de la biodiversité et qu'il y a des erreurs à corriger. C'est possible. Réduire radicalement la population de chevreuils est le premier pas à franchir. Compliqué? Sans doute, mais d'autres pays ont réussi lorsque des herbivores ont menacé leurs prairies ou leurs forêts. On peut accroître la pression de chasse, réduire les densités en aménageant certaines zones, cela s'est fait et on en a tiré quelques leçons utiles, réintroduire l'ours noir, que sais-je, consultons les spécialistes. Et puis, si on veut quelque chose d'original pour cette île, pourquoi ne pas lancer une véritable industrie de l'écotourisme avec des chalets et une infrastructure légère? Marketing international assuré. Après Bali et le Costa Rica, visitez Anticosti, la perle de l'écotourisme. En 100 ans, cette île possède un immense potentiel. Mais il faut travailler à rééquilibrer sa situation écologique. C'est une question de bon sens et d'aménagement durable bien pensé. En y réfléchissant collectivement, on devrait y arriver. La beauté sauvage à l'embouchure du golfe du Saint-Laurent, comme disent les dépliants touristiques, vaut bien cet effort. Pour en savoir plus, cheminement botanique à travers Anticosti, Jacques Rousseau, Canadian Journal of Research, volume 28, section C, 1950. Vous pouvez également lire l'article « L'île d'Anticosti, un paradis, l'influence du cerf de Virginie sur la végétation des sapinières ». C'est un article de François Potvin et Suzy Poirier dans Le Naturaliste canadien, volume 128, numéro 1, hiver 2004. Ou encore celui qui était cité dans l'article « Impact du cerf de Virginie sur la biodiversité des forêts de l'île d'Anticosti, les insectes comme indicateurs » par Christian Hébert et Luc Jobin, volume 125-3, pages 96 à 107, automne 2001, toujours Le Naturaliste canadien. Et finalement, en anglais, « Functional Responses and Resilience of Boreal Forest Ecosystem After Reduction of Deer Density ». Marianne Bachand, Stéphanie Pellerin, Marco Moretti, Isabelle Aubin, Jean-Pierre Tremblay, Steve Décôté, Monique Poulain, dans PLOS One, 28 février 2014. Nettoyer les fonds marins avec des entonnoirs géants. Bojan Slat, un jeune Néerlandais de 19 ans, a développé un système pour intercepter et extraire les millions de tonnes de plastique qui jonchent les fonds marins. Chaque année, des millions d'animaux meurent après avoir ingéré ces déchets qui se retrouvent aussi dans la chaîne alimentaire. De plus, ils causent des millions de dollars de dommages à l'équipement maritime. Slat, reconnu par l'entreprise Intel comme l'un des 20 plus jeunes entrepreneurs prometteurs au monde, a développé un assemblage de tuyaux flottants qui forment un barrage pour récupérer les fatras de plastique en utilisant la force des courants marins. Au lieu de gaspiller de l'énergie pour ramasser les déchets, nous pouvons simplement attendre qu'ils viennent à nous, dit-il sur la page de sa fondation The Ocean Cleanup. L'étudiant en génie aérospatial cherche présentement à lever 2 millions de dollars en 100 jours pour mener à terme son projet. Selon ses prédictions, sa méthode permettrait de débarrasser l'océan Pacifique de la moitié de ses déchets en moins de 10 ans. Au moment d'écrire ces lignes, il avait récolté près de 20 % de son objectif en 10 jours. Des routes photovoltaïques? L'idée semble si extraordinaire qu'on hésite à y croire. Des routes électroniques, recouvertes de panneaux solaires qui feraient fondre la neige et procureraient un éclairage et une signalisation lumineuse modulable. Julie et Scott Broussa, un couple de l'Idaho aux États-Unis, ont bel et bien mis au point Solar Roadways, un système de pavés hexagonaux en verre trempé, emboîtés les uns dans les autres. Ils ont imaginé y intégrer des cellules photovoltaïques et des ampoules d'ailes. Ultra résistante, la structure pourrait supporter le passage de véhicules lourds. Malgré les nombreuses critiques de la communauté, des ingénieurs sur la faisabilité du projet, l'entreprise a récolté plus de 2 millions de dollars grâce à une campagne de socio-financement sur le site web Indiegogo.com et à deux subventions du Département des Transports des États-Unis. Verra-t-on un jour le cartel de l'asphalte remplacé par celui du panneau solaire? Super pompiers. Les pompiers pourraient bientôt être équipés d'un exosquelette, tel que celui proposé par le designer industriel Ken Chen de l'Université Monash de Melbourne, en Australie. Il s'agit d'une sorte d'armure high-tech cerveau-assistée, grâce à laquelle le sapeur porte sur lui des bonbonnes d'oxygène, ses outils, des cartons à eau et des mâchoires de désincarcération. De plus, L'appareil articulé l'assiste au moment de gravir des escaliers et de soulever des poids atteignant jusqu'à 90 kilos. Pardon. Il suffit de tirer une poignée pour désassembler l'exosquelette. Suggestion de lecture scientifique. Échec à l'évaluation. L'Université McGill est-elle supérieure à l'Université de Montréal? Oui, et de beaucoup, si l'on se fie au classement de Shanghai, qui attribue chaque année une note aux universités de la planète, au grand bonheur des institutions privées, qui trônent au sommet, dont Harvard et Princeton. Or, ce palmarès n'a aucun fondement scientifique. Dans son récent ouvrage « Les dérives de l'évaluation de la recherche, du bon usage de la bibliométrie », le sociologue des sciences Yves Gingras, dont la verve n'a d'égal que la rigueur, s'applique à démontrer que les indicateurs de performance utilisés dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur reposent souvent sur des bases fallacieuses. Les universités ne sont pas les seules à goûter à cette médecine. Les revues savantes se font attribuer un facteur d'impact. Les scientifiques, un indice H. Pour Yves Gingras, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences à l'UQAM, les indicateurs sont avant tout des outils marketing qui servent à faire mousser la notoriété de ceux qui savent en tirer profit. Le temps est venu pour les scientifiques de se réapproprier leur évaluation. Les dérives de l'évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie, donc, par Yves Gingras, aux éditions Raison d'agir. Paris, 126 pages. Et c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi. Merci encore une fois à Jean-Sébastien à la Liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Et je ne sais pas, peut-être que je vous reviendrai la semaine prochaine. Ça dépend un peu de mon retour aux études. Mais en tout cas, sinon, passez une belle semaine et portez-vous bien.